Chers frères et sœurs, les dimanches ordinaires de cette année liturgique nous donnent de pouvoir parcourir bien des pages du premier évangile, celui de Matthieu, des pages pleines de signification, riches de lumière et de grâce. Dimanche passé, l'évangéliste Matthieu, qui nous accompagne comme un frère, nous avait donné une sorte d'aperçu du ministère de Jésus en mentionnant ses prédications, les guérisons accordées aux malades, le rayonnement bienfaisant de sa bonté. Nous avions vu se déplacer des foules nombreuses, attirées mystérieusement vers lui, désireuses de l'entendre, de le voir, de se réchauffer un petit peu en sa présence. Aujourd'hui, nous commençons à entrer en contact avec le contenu de la prédication de Jésus. Cependant, avant de nous transmettre ce premier grand enseignement de Jésus qui a reçu le titre de « Sermon sur la montagne » et qui commence avec les béatitudes que nous avons entendues, Matthieu, par un tout petit mot, nous rend attentifs, non d'abord aux paroles, mais à l'attitude profonde de Jésus. Il nous fait brièvement, presque fugitivement, discrètement, contempler cette disposition intérieure qui est comme la source cachée des paroles de Jésus. Cette disposition de son cœur qui s'exprime en tout premier lieu, non pas de grands gestes, mais par un regard de bienveillance, un regard de compassion. De fait, Matthieu vient de signaler qu'avant de prendre la parole, Jésus voit son auditoire. Voyant les foules, écrit-il. En grec, c'est encore beaucoup plus bref. Comment ne pas penser aux nombreux passages de la Bible qui rappellent que Dieu, le Dieu de l'Alliance, regarde, qu'il voit, non froidement, mais avec une mystérieuse compassion. N'avait-il pas dit à Moïse, il y avait longtemps, « J'ai vu la misère de mon peuple. » Jésus voit, il regarde. Et en contemplant ce qu'il voit, il se laisse émouvoir par ce qui se présente à ses yeux. Cette foule qui le suit avec attachement, cette foule qui n'a pas honte d'avoir besoin de lui, ces nombreuses personnes qui, j'en suis sûr, ne font pas la une des journaux, cette foule qui compte au milieu d'elle tant de pauvres, de malades, d'estropiés, aujourd'hui nous dirions des marginalisés, tant d'exploités, d'opprimés, d'humiliés, meurtris par les coups durs de l'existence. Jésus les regarde avec un cœur bouleversé, car ne devine-t-il pas que tous sont habités comme d'une soif et d'une faim qui s'ignore encore, une faim qui semble attendre autre chose que du pain, une faim qui aspire à une nourriture qui nourrit le cœur pour toujours. Une faim déjà attendue d'une autre faim, la faim d'un autre. Jésus n'est-il pas comme en face d'un troupeau sans pasteur, délaissé, souvent méprisé par les grands de ce monde, peut-être spécialement par ceux qui détiennent l'autorité religieuse. Dès lors, n'ont-ils pas besoin, n'ont-ils pas soif, faim de lui, lui qui est envoyé pour devenir ce berger qui donnera sa vie pour eux. À ce moment, avant de se lancer dans son grand enseignement, Jésus ne prend-il pas profondément conscience en son humanité, en sa psychologie humaine, que, de manière particulière, c'est pour eux qu'il est venu. Venu, dès ses premiers balbutiements, ses premiers pas sur terre, pour se faire proche d'eux, afin de les faire comprendre, eux les premiers, ce pourquoi il avait été envoyé par le Père, envoyé pour être lui-même, en son humanité, travaillé par la faim de leur faim, affamé de leur éveil à une lumière nouvelle, affamé de leur éveil à un sens qui est prêt à se donner à eux, comme d'ailleurs à tous ceux qui voudraient bien l'accueillir, leur révéler à eux tous le sens ultime de l'existence, ce sens capable d'embrasser toute l'existence, de toucher toute l'existence avec ses circonstances, avec ses événements. Ce sens qui n'est pas une belle idée, une construction de l'esprit, mais une réalité, la réalité d'une communion, communion en Dieu, participation réelle de la communauté trinitaire. Jésus n'est-il pas venu pour nous éveiller tous à ce sens qui ne consiste pas à s'attacher aux richesses et peut-être aux mille contrefaçons de la joie en ce monde, mais à nous attacher à cette joie qui demeurera à jamais, cette joie profonde que Dieu seul peut mettre dans les cœurs, cette joie qu'on ne peut pas faire ou acheter, se procurer par ses propres moyens, mais qu'on ne peut que recevoir, recevoir avec des mains prêtes à s'ouvrir, recevoir avec un cœur qui accepte de se laisser un petit peu libérer, probablement pas à pas, apprentissage après apprentissage de son égocentrisme. Jésus, en voyant cette foule devant lui, cette foule présente, et derrière elle, la multitude des nations et nous tous, ne doit-il pas, pour ainsi dire, révéler cette joie à laquelle toute sa propre existence, tous ses enseignements, ses signes voudraient nous conduire, cette joie autrefois insoupçonnée, qui est prête à se déverser au cœur qui se décide à se laisser conduire par lui, se laisser former par son exemple et sa parole, se laisser inspirer par son esprit, des cœurs ainsi apprendront ce que veut dire être miséricordieux et qui consentent à ce dur combat qui consiste à vaincre sa propre violence afin de devenir lentement, petitement, instrument de paix et de pardon dans un monde qui en a tant besoin.